Orion Hebdo, Éric Bataillon.
Comment expliquer les ressorts de la violence qui semble animer la société turque au quotidien? Quels sont les mécanismes qui transforment un enfant en sujet de violence? Pour tenter de répondre à ces questions, la sociologue franco-turque Pınar Selek a choisi de sonder le service militaire obligatoire en Turquie. Cette enquête de terrain a été menée en dépit de la censure et de menaces de mort répétées. Victime d'un acharnement judiciaire de la part de l'État turc et de nouveau convoquée au tribunal cette semaine dans une affaire pour laquelle elle a déjà été acquittée 4 fois, Pınar Selek répond à sa manière aux autorités en publiant cet essai « Le chaudron militaire turc, un exemple de production de la violence masculine » aux éditions Des Femmes, Antoinette Fouque. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site RFI.fr, également sur notre application Pure Radio, rubrique « Société ». Bonjour Pınar Selek.
Bonjour Éric Bataillon.
Après un travail sur la vie des enfants de la rue, parfois enfants de prostituées, vous commencez en 1997 une enquête d'histoire orale sur la diaspora politique kurde au Kurdistan, mais aussi en Allemagne et en France. La police turque vous arrête le 11 juillet 1998 et vous demande de livrer les noms de vos enquêtés, hommes et femmes. Vous refusez, ce qui vous vaut d'être accusé par la justice turque pour un attentat à Istanbul qui se révélera être un accident domestique. Pourchassé est le mot à retenir puisque vous avez été poursuivi et acquitté déjà 4 reprises dans cette affaire. Mais la Cour suprême turque a annulé votre dernier acquittement en juin de l'année dernière, juin 2022, et vous avez de nouveau un mandat d'arrêt contre vous et un nouveau procès en cette fin du mois de septembre. Pınar Selek, que vous inspire cet acharnement judiciaire ?
Si vous voulez, cet acharnement ne m'inspire pas. Et je dis toujours depuis le début, je refuse de jouer dans ce film, je refuse d'être actrice dans ce film, d'un mauvais film de science-fiction. Mais en même temps, je sais que ce mauvais film de science-fiction est aussi imposé à tout le pays. Même pas seulement tout le pays, toutes les régions, tout le Moyen-Orient, Caucase, tout ça, tout ça. Donc, je sais que je suis un tout petit point dans le grand tableau qui est, entre guillemets, condamné à la violence extrême, qui en a intimement la possibilité de la réflexion. Donc, moi, je pense que dans ce contexte, être sociologue et dire que réfléchissons, trouvons des causalités. D'abord, comprenons la maladie. Peut-être on trouvera des solutions. Ça fait peur. Ça fait peur parce que, comme l'extrême droite, mais les militaristes, disons, ceux qui ont besoin de la guerre, ils ont peur de la réflexion. Donc, comme l'anti-intellectualisme, on parle beaucoup, on a peur des réflexions. Comme Anna Arendt dit, les racines de mal aussi et dans l'absence de la pensée.
Et comme vous êtes sociologue et que vous réfléchissez, forcément, on a peur de vous.
Moi, mais il y a plein de personnes en prison comme moi.
Exilé en France depuis 2011, vous avez obtenu la nationalité française en 2014. Quel soutien avez-vous dans votre pays d'adoption, la France, notamment de la part de l'État et de vos collègues?
Si vous voulez, c'est la partie miraculeuse de cet acharnement, parce que qui me fait mal, qui me blesse tout le temps, c'est la solidarité énorme que j'ai vue dans mon pays. Je ne dis même pas adoption. Depuis que je suis en France, je ne me sens pas en exil. Je me sens plutôt une nomade. Je voyage beaucoup. Et il y a une vraie solidarité, mais de longue durée, qui consiste un engagement très fort. Depuis les débuts, les universités, d'abord j'étais à l'université de Strasbourg qui avait dit que Pınar est un asile académique et après je suis à Nice maintenant. Et je me sens dans un très grand corps collectif et je fais partie de ce corps et je ne suis pas toute seule attaquée. Parce que, imaginez, donc j'ai déjà la protection fonctionnelle. Mais en dehors de ça, tous les laboratoires de recherche des universités, les sociétés des savantes, toutes les associations de sociologie, de sciences politiques, d'anthropologie s'engagent, font des motions, font des vidéos. Ils participent à toutes les organisations, mais ça, pas seulement ça. Elles partent en Turquie pour dire que nous sommes là et nous sommes dans. Donc, ils participent à mes procès. Chaque fois, ces associations disciplinaires, au nom de la liberté de recherche, au nom de liberté académique, s'engage de façon très concrète et de façon très active à mes luttes contre un acharnement qui date depuis 25 ans.
Ce livre, Le chaudron militaire turc, est-il votre réponse à cet acharnement judiciaire?
Oui, mon livre est Le chaudron turc militaire, bien évidemment, parce que je fais aussi une lutte très individuelle dedans. C'est une lutte psychologique. En France, j'ai pu avoir l'espace de création, de réflexion, de recherche. J'ai élargi mon espace de liberté. Bien évidemment, je ne peux pas aller en dehors de la France à cause de cette mandat d'arrestation. Je suis co-responsable de l'Observatoire de migration. Je ne peux pas aller en Italie travailler avec mes collègues. Et beaucoup de mes travaux sont sur des différents sites, mais je ne peux pas les faire. Mais en dehors de ça, moi, j'essaye de quand même toujours élargir ma réflexion. Et j'ai dit que cet acharnement, il faut pas que ça atteigne ma capacité de réflexion. Donc, je vais vraiment être une chercheuse libre, penser dans la liberté. Et donc, c'était avec cette motivation que j'ai écrit ce livre, Chaudron turc militaire, parce que j'ai dit, on m'impose aussi, même mes avocats, etc. Non, il ne faut pas aller très loin. Maintenant, tu te tais un peu, tu fais d'autres choses, tu travailles sur d'autres thèmes, mais tu ne vas pas faire ça. Mais je me suis dit, non, tu dois faire ça parce que déjà, le problème devient très brûlant pour la région. Et j'ai dit, ma dernière recherche en Turquie, c'était sur le service militaire. Et j'ai fait ces recherches. J'ai publié le livre qui s'appelle Devenir homme en rampant. J'ai essayé de vraiment comprendre les mécanismes, les liens entre les mécanismes sexistes, militaristes et nationalistes, comment ces mécanismes façonnent la structuration des violences. Et après, quand j'ai fait cette recherche, j'avais un but concret parce que mon ami, mais aussi c'est un grand journaliste arménienne en Turquie, Hrant Dink, c'était un homme de paix, était tué par un fasciste, et qui le disait aussi. Mais la compagne de Hrant Dink avait dit, pas seulement arrêter des assassins, mais il faut sonder les ténèbres qui transforment un bébé en un assassin. Et moi, j'ai commencé en tant que sociologue à sonder ces ténèbres. Et je savais que c'est multicausal, multidimensionnel. Mais moi, j'ai dit, je peux au moins éclairer une dimension, surtout la dimension sociale, parce qu'il y a des dimensions psychologiques, etc. Bien évidemment, je ne suis pas déterministe, mais je sais qu'il y a des conditions qui facilitent, qui favorisent ces violences. Et donc, j'ai fait cette recherche et j'ai montré ça. Et aujourd'hui, comme il y a des années qui sont passées, et j'ai dit, je peux aller plus loin dans les réflexions. Et j'ai élargi ma problématique et surtout en montrant est-ce que cet exemple reflète ce qui se passe dans le monde et est-ce que ces mécanismes, comme ces mécanismes sont dynamiques, comment se renouvellent, quels sont les nouveaux dispositifs. Et donc pour lire pas seulement la Turquie, mais aussi le monde d'aujourd'hui, j'ai inclus aussi la dimension de mondialisation, etc. Et surtout, dans les parties turques, j'ai parlé du processus de paramilitarisation et surtout du processus de la militarisation et comment l'extrême violence devient très très banale dans ce pays.
Et justement, quand vous avez fait cette recherche au sein de l'armée, finalement, à propos du service militaire, quelles ont été les réactions, notamment de l'État et aussi du public turc? À l'époque, c'était dans les années 2007-2008.
Oui, donc j'ai publié le livre, donc Hrant Dink, il était mort en 2007, depuis 2007. Après, moi, j'ai fini le livre fin 2008. Et il est sorti le livre, ça crée une émotion énorme parce que j'ai fait une tactique. J'ai parlé autant que mes interlocuteurs. Donc, j'ai donné la parole à mes enquêtés et j'ai montré la banalité du mal avec leur discours. Et là, ça crée un énorme bruit et j'étais très médiatisée. Dans quelques mois, on parlait beaucoup, beaucoup de ça dans toutes les télévisions, etc. Mais n'oubliez pas que même critiquer le service militaire, c'était un délit en Turquie. Mais comme on ne me touche jamais à mes livres, on veut toujours me criminaliser ailleurs, donc mon livre a continué son chemin. Mais juste après les publications des livres, j'ai commencé à avoir des menaces énormes à la maison. Et après, la Cour de cassation a demandé mon emprisonnement, etc. Donc je suis venue en France 2 mois et demi après les publications de ce livre. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, quand je dis donc les procès sont recommencés, Pınar, il faut que tu continues ton chemin. Il faut que tu persistes et signes, comme c'est écrit dans mon livre.
Orient Hebdo, une émission bi-hebdomadaire de RFI, mise en onde et réalisée par Steven Elsley. Nous sommes en compagnie de la sociologue française d'origine turque, Pınar Selek, pour son livre « Le chaudron militaire turc » publié aux éditions Des Femmes Antoinette Fouque. Pınar Selek, passons sur le premier chapitre qui rappelle les 6 étapes qui font d'un garçon un papa, c'est-à-dire un homme hétérosexuel circoncis qui a appris à tuer, qui a un travail, une certaine expérience sexuelle, une épouse et au moins un enfant. Allons directement au second chapitre. Comment éviter d'être qualifié de pourri quand on est un garçon ?
Très bien dit, parce que comme j'explique dans le livre, donc parce que le service militaire, c'est très, ça montre beaucoup de choses par rapport à la société. Il est considéré comme 4e étape de devenir homme. Et quand on sait que c'est très difficile parce que ça dure 1 an et demi, c'est beaucoup. Et les hommes essayent d'éviter, mais en même temps, il met en place un système de dire que si tu ne fais pas ton service militaire, tu n'es pas un vrai homme. Et même avant d'aller au service militaire, tu dois faire un contrôle de santé banal, normal, si ta santé permet, etc. Mais moi, j'ai fait mon enquête, j'ai fait vraiment une enquête de longue durée, et j'ai remarqué que même ce contrôle est considéré comme une attestation de masculinité. Mais un peu, même il y a une dimension sexuelle aussi, si le pénis marche ou non. Ils disent comme ça. Donc, je leur demande qu'est-ce qui se passe. Ils disent, ils ont regardé à mon truc, à mon machin, et si ça marche bien, si c'est grand ou non. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui se passe, comment on le vit, l'histoire. Mais ce qui est intéressant et qui confirme aussi cette imagination des hommes, s'il y a une maladie de ces personnes, même ça peut être une maladie de vue, maladie de je ne sais pas quoi, s'il a une maladie, ils écrivent, non, il est pourri, mais c'est incroyable, non, il est pourri, il ne peut pas faire son service militaire. Donc, vous pouvez imaginer pour un homme en Turquie, avoir une attestation officielle de pourri. Donc, et les hommes, même s'ils ne veulent pas aller au service militaire, courent pour ne pas avoir l'attestation de pourri.
Cuire dans le chaudron, c'est le titre du chapitre suivant. Le service militaire turc sert-il à fondre chaque appelé dans le même moule de la soumission et aussi de la violence ?
Alors, le service militaire, ce n'est qu'un exemple, parce que c'est assez intéressant. On voit que c'est un espace où il n'y a que des hommes dans le service militaire. Et les hommes qui sont grandis dans des différents espaces, qui ont des différentes masculinités, qui ont des hiérarchies entre eux, etc. Mais ils arrivent sous la domination d'un plus fort masculinité, l'État, qui a le plus grand pénis. Et là, ils apprennent ensemble de obéir au plus grand. Parce que l'apprentissage de masculinité consiste aussi l'expérience de la soumission. Ils apprennent ce qui est très, très, très répété. Je suis devenue plus rationnelle. Ça veut dire, j'ai appris quand je vais écraser et quand je vais soumettre. Parce que le patriarcat, le sexisme, ne veut pas dire qu'un homme bat une femme seulement. C'est toute une culture de fonctionnement qui aussi façonne le fonctionnement militariste, nationaliste, capitaliste, etc. Donc, c'est très important de comprendre les cultures hiérarchiques masculines.
Pnar Selek, y a-t-il des rébellions à cet environnement, des actes de résistance ?
Beaucoup. Il y a beaucoup d'actes de résistance, mais pas seulement en Turquie. Mais sur l'exemple de la Turquie, je peux dire que depuis toujours, il y a eu des actes de résistance contre ce système violent, disons. Mais par exemple, par rapport au service militaire, juste un exemple, un des plus grands mouvements des insoumis, c'est en Turquie. Il y a beaucoup d'insoumis, il y a beaucoup d'objecteurs de conscience. À un moment donné, ils étaient tous en prison. Mais comme ils sont très nombreux, l'État a laissé un peu la chose parce que les mettre en prison les visibilise un peu plus. Donc il y a des différents types de résistance, quelquefois informelle, quelquefois plus active.
Et quelle influence ce formatage militaire a-t-il sur les comportements des hommes dans la société turque au quotidien?
Oui, le formatage militaire ne vient pas que de l'État. Aujourd'hui, le formatage militaire aussi s'est relayé par les structures paramilitaires et qui sont de plus en plus importants en Turquie. Et même, je peux vous dire que la militarisation se fait beaucoup par ces organisations paramilitaires.
Comme les Lougris, par exemple.
Par exemple, entre autres. Et la société, et surtout que les hommes, s'arment de plus en plus, et de façon informelle. Donc il y a une militarisation qui devient... Je crois que c'est jamais vu dans l'histoire. Et dans ce contexte, bien évidemment, la Turquie, c'est un pays de lutte de la libération des femmes. Le mouvement féministe est très, très, très fort. Mais les hommes qui s'organisent, qui se structurent entre eux, qui s'arment, etc., se tournent vers les femmes. Vers les femmes qui veulent se libérer, qui veulent aller plus loin, mais pas seulement contre les femmes, contre les homosexuels. La Turquie, c'est un pays où le mouvement LGBTI+ est très, très important. Il y a des luttes énormes. Et c'est pas un délit d'être homosexuel en Turquie, mais il y a une homophobie qui se renforce avec tout ce mécanisme qu'on a expliqué. Et une des premières cibles de ces structures, c'est les homosexuels. C'est les femmes, les Kurdes, les Arméniens, les étrangers, donc...
Les minorités.
Les minorités, et donc ce qui sort de leur récit imaginaire. Mais il y a une lutte, une convergence très très importante entre tous ces opprimés, je veux dire, et qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de solidarité internationale, parce que comme en Iran, même si les luttes sont très fortes, les rapports de force ne sont pas les mêmes choses.
Merci Pnar Selek.
Merci à vous.
Sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Côte d'Azur, vous êtes également coordinatrice, vous l'avez dit, de l'Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes. Votre livre, Le chaudron militaire turc, sous-titré Un exemple de production de la violence masculine, est publié aux éditions Des Femmes, Antoinette Fouque. Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous.